France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois Philippe Geluck, qui depuis plus de 30 ans jette sur l'humanité un regard drôle, fantaisiste, tendre ou parfois cruel. Son 23e album, Le chat est parmi nous, vient de paraître. Une occasion de retracer le parcours riche et varié d'un dessinateur d'humour qui fut aussi comédien, chanteur, animateur de radio et de télévision. Cette visite de Philippe Geluck m'a en outre donné envie de m'intéresser aux rapports innombrables entre chat et musique, avec en fin d'émission la chatte métamorphosée en femme d'Offenbach, et pour commencer, la voix d'Yves Montand.
Le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les babines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Je ne dessinerai pas l'homme et son agonie, l'enfant des premiers pas qui gèle dans son nid. Je ne parlerai pas du soldat qui a peur d'échanger une jambe contre une croix d'honneur. Du vieillard rejeté aux poubelles de la faim, je n'en parlerai pas. Mieux vaut ce petit refrain. Le chat de la voisine qui mange la cuisine et fait ses gros ronrons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se met plein les papines de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ronron, ronron, et vive le chat, et vive le chat. Rock. Je ne serai pas l'empêcheur de déjeuner en rond, à louange et la sueur qui brûle sur les fronts. Je ne parlerai pas de l'ouvrier qui pleure la perte de ses doigts morts au champ du labeur. De la jeune fille fanée avant d'avoir aimé, je n'en parlerai pas. Il vaut mieux glorifier le chat de la voisine qui mange la bonne cuisine. Elle fait ses gros bonbons sur un balai de redondondon. Le chat de la voisine qui se peuple de papilles de poules et de foie gras et ne chasse pas les rats. Miaou, miaou, qu'il est touchant le chant du chat. Ron, 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 ron. Et vive le chat, 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 et vive le
C'était en 1959, Yves Montand dans cette chanson qui plaira certainement à Philippe Geluck et qui souligne aussi que la chanson, eh bien, elle accommode le chat à toutes les sauces, depuis le père Lustucru jusqu'au cha-cha-cha. C'est d'ailleurs le sujet d'un très bon coffret paru voici quelques mois chez Frémaux et Associés qui s'intitule « Le chat dans tous ses états », trois CD avec notamment au programme « Le chat à travers la chanson et la poésie », « Le chat dans l'univers des enfants » ou encore « Le chat dans l'univers de la musique classique et de la musique d'ambiance ».
Thank you.
je suis sûr qu'il aurait plu à Pierre-Marcel Onder, ce petit chat sur le clavier, c'est le nom de ce morceau interprété par Zez Confrey, une figure américaine du ragtime et du piano bass string, un morceau que vous retrouvez également chez Frémo et Associés dans le coffret Le chat dans tous ses états.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Le chat, d'ailleurs, vous le savez, est l'animal préféré des Français. C'est aussi le héros et d'une certaine façon le porte-parole de mon invité, dessinateur d'humour, mais aussi humoriste en tout genre. Il vient de publier « Le chat est parmi nous », un chat lui-même entré à l'ère de la Covid. J'ai la joie d'accueillir Monsieur Philippe Geluck.
Chanter, on rigole, c'est comme au music-ball. À l'Olipop, à l'Olipop. Ici on s'amuse comme des fous, avec Mimi, Moka ou Poulou. Ici on s'amuse comme des fous, et de tout le reste on s'en fout. Lali, 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 Paulette, viens faire la fête avec nous. Tous les jours ça galope comme des antilopes. À l'Olipop, à l'Olipop.
Bonjour Philippe Geluck.
Bonjour Benoît Dutertre.
Alors oui, j'aime bien quand mes invités ont enregistré au moins quelques chansons, commencé avec, et je vois que vous en avez enregistré finalement plusieurs.
Oui, quelques-unes.
Dont celle-ci.
Dont celle-ci qui était le générique d'une émission pour enfants quotidienne, voilà, que voilà, j'animais en Belgique à la RTBF entre 79 et 85.
Et ça s'appelait l'Olipop justement, l'Olipop, d'ailleurs. C'était voilà, le nom de l'émission. Ça, hein.
C'était le générique et chaque émission commençait par moi qui arrivais en chantant le générique. Si on m'avait dit à l'époque que cette chanson sera un jour diffusée sur France Musique,
ah, n'est-ce pas,
hein, je ne l'aurais pas cru.
Alors, il y en avait d'autres comme Sombrero avec Malvira.
Ça c'est bien, hein, c'est un duo d'amour un petit peu à la façon de, voilà, de l'été indien de,
voilà,
de Joe Dassin, etc. C'est assez rigolo. Et oui, vous avez encore une liste. Vous avez,
non,
vous,
avez, non,
vous pouvez balancer toutes les infos. Que
j'avais
vous avez
mis de côté ces deux-là, mais en même temps, ça m'amusait, Philippe Geluck, puisque j'ai la joie de vous recevoir ce matin, de commencer avec une chanson pour enfants, parce que au fond, chez vous, il y a à la fois un côté tendre et bienveillant, et puis il y a un côté aussi parfois sombre, même cynique, d'un auteur qui n'hésite pas parfois à se réclamer d'Harakiri ou d'illustres ancêtres de ce genre. Philippe Geluck, c'est la conjugaison de ces deux personnages.
Oui, c'est le grand écart entre ces choses-là. C'est drôle que vous ayez choisi cette chanson de l'émission Lollipop, qui à l'époque était un ovni à la télévision belge, qui était plutôt le doigt sur la couture du pantalon, une télévision classique d'État. Et nous avons littéralement déposé une bombe là-dedans. On a complètement chamboulé la télévision pour enfants en faisant une émission insolente.
Ah, c'était pas si gentil que ça.
Ah non, c'était politiquement incorrect. La marionnette avec qui j'animais crachait sur les invités. Elle balançait des insultes, etc.
Ah oui.
Et
ah oui,
y a eu même des manifestations dans Bruxelles pour nous interdire. Et les pétitions qui nous soutenaient ont été tellement signées que l'émission a été maintenue. Et c'est très drôle. C'était avant les nuls, c'était avant tout ça. Et on a un petit peu révolutionné la télévision pour enfants à l'époque.
Enfin, vous êtes d'accord, vous êtes à la fois un gentil et un cruel.
Comme le chat.
Comme le chat
est à la fois bête et intelligent.
Voilà.
Et j'aime cette espèce de gymnastique qui lui permet d'être parfois aussi pertinent que Confucius et parfois aussi crétin que le type qui boit un coup au bar à côté de nous.
Alors ça me faisait aussi plaisir de commencer avec cette chanson pour une autre raison, on l'a compris. Vous venez de nous le dire, vous étiez à l'époque animateur de télévision, chanteur, vous avez fait des tas de métiers. En fait, vous êtes un dessinateur d'humour, mais vous êtes aussi peut-être simplement un artiste complet qui s'est essayé aux genres les plus divers, Philippe Geluck.
Oui, un homme à tout faire.
Un homme à tout faire.
J'ai commencé, je crois que ma première impulsion, ça a été le dessin. Parce
quand
que
même,
j'ai,
ouais, oui.
J'ai retrouvé, ah oui, et notamment...
Votre période Pollock, vous en avez parlé dans une interview
vous
aviez 3-4 ans. Hein.
Oui, enfin sur le mur de ma chambre, ça c'était juste, c'est du tachisme. Et puis, j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais faire rire avec des dessins.
Ah oui.
Et j'ai produit beaucoup de choses entre 9, 10, 11, 12 ans déjà.
Ah oui.
Et j'ai publié mon premier dessin à l'âge de 16 ans.
Ah oui.
Et
c'est
temps,
après que vous avez tout essayé, en
oui,
fait.
Oui, en voilà, même temps, j'avais aussi écrit des petites pièces de théâtre que je jouais avec la fille des voisins dans la cave de la maison familiale. Et donc, il y avait déjà le théâtre. Et après, je suis devenu comédien. Donc, tout est très mélangé dans ma vie et dans ma tête.
Voilà, comme dit Bourville, quand on est artiste, il faut faire tous les genres.
Exact. Et Dieu, ah oui, quel maître.
Alors, on va justement remonter un petit peu dans votre histoire, Philippe Geluck, à l'occasion de la parution de ce nouvel album, Le chat est parmi nous. Et voilà, j'ai choisi cette musique qui, je pense, peut se rattacher à certains épisodes de votre tendre enfance. Cœur de l'armée rouge, à l'époque on disait de l'URSS, hein, pas de la Russie, Philippe Geluck. Et si je disais que ça nous ramène à votre enfance, c'est que par votre père en particulier, qui était à la fois un artiste et aussi un militant communiste, vous avez eu cette forte emprise, notamment de la culture venue de l'Est.
Absolument. Mes parents étaient amoureux de la culture de l'Est et en même temps militants communistes. Et évidemment, toute notre enfance, à mon frère et à moi, a été baignée de cette influence-là. Alors, il y avait les choses un peu ridicules, c'est qu'on ne pouvait pas boire de Coca-Cola, on pouvait pas boire Ah oui, ça allait jusque-là.
Tout ce qui était américain, niet.
J'ai jamais vu un dessin animé de Walt Disney de mon enfance.
C'est
on pouvait pas jouer au Monopoly, etc. Mais par contre, j'ai vu tous les films de Bondarchuk, de trucs. On n'avait pas la télé et mon père, qui était distributeur de films après avoir été dessinateur, ramenait de temps en temps à la maison un projecteur 16 mm où il nous projetait Tempête sur l'Asie, des films et puis des films tchèques, polonais, etc. Et vous me passez ces chœurs de l'Armée Rouge, j'ai tout de suite la chair de poule.
Ah oui.
Parce qu'ils nous ont transmis cette émotion-là. Et on avait à la maison des disques. Mon père, ma mère d'ailleurs, avait fait des études de chant.
De chant, oui.
Et ils étaient très mélomanes. Mais on avait des disques que de deux marques. C'était Melodia, c'était les disques russes, et Supraphone, les disques tchèques. Et mon père, lors de tous ses voyages, ramenait des valises entières parce que les disques coûtaient trois fois rien là-bas.
Ouais, ouais.
Et alors on les écoutait dans des... C'est comme ça que j'ai découvert David Oistrakh et que je peux le reconnaître entre tous. Et on avait quand même deux disques en français.
Ouais.
C'était un 45 tours. Jean Ferrat, mais qui chantait Potemkin.
Oui, c'est ça.
Bon sang, ne saurait mentir. Et l'autre...
Yves Montand.
Oui, évidemment, Yves Montand. Donc voilà, on n'en sortait pas.
Et votre père, même quand vous étiez adolescent, a essayé de vous persuader que le rock hongrois, ça devait être aussi bien que le rock anglais, non ?
Oh, le pauvre. Et nous, les pauvres. Nous, on commençait, mon frère, vraiment à s'intéresser à la culture pop. Et on se passionnait, pour vous rendre compte, j'avais 14 ans quand est sorti Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band. Donc, et lui, nous ramenait des disques de... Alors, c'était hongrois et ça... Oui, le groupe s'appelait Illes Zenekar. Et alors, il nous le passait et c'était badaboum, badaboum, c'était monstrueux, mais il nous disait quand même aussi bien. Il dit, me dites pas que vous comprenez ce qu'il chante en anglais. Alors, vous comprenez pas en hongrois, c'est la même chose.
C'est pareil. En tout cas, Philippe Gueluc, on l'a compris, vous avez quand même, par ailleurs, au-delà de cet engagement très précis, grandi aussi, dans une famille d'artistes. Hein.
Ah oui. Voilà, donc, avez... maman chanteuse, père dessinateur. Ouais. Juste après la guerre, il a fait...
Dans les journaux belges, de l'époque?
Oui. Ouais. Dans l'équivalent de l'Humanité, mais en Belgique, ça s'appelait le Drapeau Rouge.
Ah ouais.
Et puis, pour beaucoup de journaux. Et il dessinait des dessins très engagés. Il militait pour la paix, contre la bombe atomique. C'était toujours des dessins dénonçant les riches qui exploitaient les pauvres, etc. C'était l'imagerie communiste de l'époque. Et puis, il s'est rendu compte que ce métier n'était plus possible parce que, de par ses engagements politiques, tous les journaux voulaient plus l'engager en disant non, lui il est trop connoté à gauche, donc on l'engage plus, donc il y arrivait plus et il a trouvé un autre boulot, celui de distributeur de films. De quelle partie du monde? Des pays de l'Est.
Des pays de l'Est. Enfin, après le printemps de Prague, il a un peu eu des doutes, quoi.
Ouais, je me souviendrai toujours de cette, on était à la campagne et le jour de l'intervention des chars soviétiques à Prague, il était assommé par ça en écoutant le journal parler, et puis il est parti pour travailler à Bruxelles, et il est revenu 2 heures plus tard, il était gris,
ouais.
Il était au bord de l'évanouissement, il ne s'en est jamais remis, il a commencé une dépression nerveuse qui a duré 10 ans suite à cette déception majeure.
Alors, puisqu'on a évoqué le côté de votre père, écoutons maintenant le côté de votre mère.
Je ne sais quelle ardeur me pénètre, de mes sens je ne suis plus le maître, de mes sens je ne suis plus le maître, je soupire et je vis tour à tour, mon père bon, au seul nom de l'amour, mon père bon. Je vois
Leïla Ben Sedira dans le rôle de Chérubin, bien sûr, les Noces de Figaro. Je crois que vous aimez cet air, Philippe Geluck, entre autres. Hein, vous aimez tout Mozart.
Ben oui, et ma maman... alors, pour moi, Mozart est lié à l'aspirateur, parce que quand elle passait l'aspirateur à la maison, elle chantait la flûte enchantée. Et donc, il y a toujours cette soufflerie d'aspirateur qui accompagne Mozart.
Elle se mélange à Mozart dans vos souvenirs.
Non, elle chantait merveilleusement bien.
Elle avait vraiment travaillé sérieusement.
Ah, elle avait fait le conservatoire,
oui.
Mais elle était pétrifiée à l'idée de devoir chanter devant du public, ce qui dans ce métier est un petit peu gênant. Donc elle n'a jamais été sur scène. Je crois que après son examen, je sais pas comment on appelait ça, l'épreuve de finale au conservatoire qu'elle a remportée, enfin, elle a été nouée pendant 15 jours. Enfin, il a fallu la détendre parce qu'elle tellement elle était stressée et traquée. Son grand souvenir, c'était d'avoir chanté dans les chœurs pour la 9e de Beethoven, mais là, elle était noyée dans la masse. Et donc, elle n'avait pas ce problème de trac.
Mais vous-même, vous vous êtes lancé dans la clarinette et êtes devenu un grand interprète du concerto de Mozart.
Ah oui, un des plus grands. Mon frère avait appris le piano. Et comme on partait chaque week-end en tram et en train à la campagne chez mes grands-parents, on s'est rendu compte que mon frère pouvait jamais travailler le piano pendant le week-end, puisqu'on ne pouvait pas transporter l'instrument et qu'on n'avait pas assez de sous pour en avoir deux. Donc, quand il s'est agi de me faire apprendre un instrument à moi, on m'a guidé par un instrument plus transportable. Et mes parents ont un petit peu guidé mon choix en me faisant écouter l'adagio du concerto pour clarinette de Mozart. Et qu'est-ce qu'on peut dire quand on entend ça? On ne peut que aimer, évidemment, et se dire, ben oui, c'est ça que je veux jouer. Or, pas du tout. Moi, je rêvais plutôt d'apprendre la guitare pour emballer les filles un peu plus tard. Et avec une clarinette, c'est beaucoup plus compliqué.
Surtout dans cette génération, oui, effectivement. Alors, en tout cas, vous nous l'avez dit, bon, vous avez dessiné très jeune, et puis vous vous êtes lancé un peu, on va dire, dans le spectacle, après l'adolescence. Hein. Vous avez joué assez souvent sur les planches, un certain nombre de spectacles. Hein.
Pendant 10 ans, j'ai été vraiment comédien, et c'était mon occupation principale. Et
Vous aviez un emploi, vous étiez un comique, un tragique
Alors, au fond de moi, je pressentais que je pourrais devenir un comique, mais on m'a jamais donné vraiment l'occasion de prouver ce que je ressentais. Alors, on m'a fait jouer Werther, on m'a fait jouer Maquis dans l'opéra de Katsu, où là, je chantais. Mais on m'a aussi fait jouer du Marlowe, le Faust de Marlowe, dans lequel je jouais Méphisto. Donc, toujours des... Et j'ai terminé ma carrière en jouant Plume de Michaud, un certain Plume.
Un des textes que je préfère dans la poésie moderne.
Je suis d'accord. Et figurez-vous que c'est la seule fois que Michaud a accepter que l'on joue l'intégrale. Il avait accordé le droit de dire 3 de ses textes à Francis Blanche. Et puis, il voulait
Francis
pas...
Blanche.
Oui, Francis Blanche a dit au théâtre de l'Alliance à Bruxelles du Michaud, à l'époque. Ça paraît incroyable. J'ai pas vu, mais il n'y a pas d'enregistrement. Et lorsque nous avons voulu le monter, mis en scène par un Polonais qui s'appelait Andrzej Bujinski, nous avons évidemment demandé l'autorisation de jouer la pièce à l'auteur qui était encore vivant. Il a réservé sa réponse. Il a dit, je vous accorde le droit de le jouer 20 fois et soit moi, soit quelqu'un de confiance viendra voir une représentation sans s'annoncer et nous vous ferons savoir ensuite si vous pouvez continuer. Et la personne est venue, on ne sait pas quand, et on a reçu une lettre de Michaud qui dit « Je vous autorise à jouer autant de fois que vous voulez ». C'était, paraît-il, magnifique. Et c'est vrai que c'était un beau spectacle.
Mais alors, vous aviez un but à cette époque-là, Philippe Geluck? Vous pensiez que vous alliez devenir comédien, vraiment, et que ce serait votre métier? Vous aviez toujours le dessin dans un coin de la tête?
Oui, j'ai toujours dessiné parallèlement. Je faisais même des expositions parallèlement au métier de comédien. Non, en fait, mais je crois que ça a été mon problème, c'est que j'avais pas un but. Je me suis demandé un jour au milieu du guet, mais pourquoi je fais ça? Parce que ça ne me correspondait pas tout à fait. J'étais pas toujours d'accord avec les décisions du metteur en scène. Je m'emmerdais parfois carrément. J'étais passionné par ailleurs, et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Et au bout de 10 ans, j'ai pris la décision de quitter le métier. Justement après avoir fait Plume, qui avait été un immense succès et dont les gens me parlent encore, et en me disant, au moins je pars sur un bon souvenir. Et peut-être me rappellera-t-on. Le métier m'a jamais rappelé quand je l'ai quitté.
L'un c'était Jim et l'autre c'était John.
Le sergent c'était Gordy Carson.
Au régiment, peu importe d'où on vient.
Si l'on marche, tout va bien.
Le canon sonne, nos pas résonnent. Du gange au manabar.
Chaud ou froid, soit fou fin.
La mort vient à la fin.
Ni plus tôt ni plus tard.
Que l'ennemi soit blanc ou noir.
cela t'est bien égal et tu dois crever ce soir. Johnny trouvait le whisky fade
et Jimmy avait le ventre très malade.
Alors Georgie les prit par le bras.
Tous les trois en avançant, on crèvera.
Le canon tonne, n'ont pas raison, non. Du gondo à la barre.
Chaud ou froid, soif ou faim,
la mort vient à la fin.
Ni plus tôt ni plus tard,
que l'ennemi soit blanc ou noir,
cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir.
John fut tué et Jimmy est mort.
Et John dit de son dernier sommeil d'or.
Mais pour se battre, on trouvera.
Ils ont du sang rouge qui coulera.
Le canon sonne, non pas raison. Du gant au malabar.
Chaud ou froid, soif ou faim.
La mort vient à la fin.
Ni plus tôt ni plus tard.
L'ennemi soit blanc ou noir,
cela t'est bien égal si tu dois crever ce soir.
Et le chant des canons, bien sûr, de l'opéra de Katsu, ici, donc, dans la version française de 1930 avec Albert Préjean et Jacques Anlet, l'orchestre de Théo Macébon. Je crois que c'est d'ailleurs la bande du film de Pabst. Et donc, Philippe Gueluc, vous rappelez la production, vous chantiez, vous aimiez ça? C'était, il avait un bel orchestre.
Oui, ça, j'ai adoré. Il y avait un orchestre dans la fosse. Ouais. Nous chantions sur scène dans des salles de 2000 personnes.
Ah oui.
Sans micro.
Ah, c'est une grosse production.
Ouais, sans micro. C'était une mise en scène de Henri Ronce dans des décors de Franz Salieri. Ouais. Et donc, il y avait de la figuration, il y avait des trucs. Et Macky chante 9 chansons, je crois, dans l'opéra de Katsu. Et j'ai adoré ça. J'étais un peu jeune pour le rôle, mais c'était le parti pris du metteur en scène. Et là, j'étais troublé parce que c'est pas la même traduction, donc j'arrivais pas à chanter avec eux. Mais c'était... c'était fort.
C'est saisissant, c'est beau. Ouais. Alors après, ces années de théâtre, il y a la période, on peut dire, presse, radio, télévision en Belgique, qui a été un petit peu votre activité au cours des années suivantes,
oui,
Philippe Gueluc.
En quittant le théâtre, j'avais commencé la télé, puis j'ai continué la télé, cette fameuse émission Lollipop.
Voilà.
Et pendant cette émission est né le chat pour le journal Le Soir.
Ouais.
Et donc, j'ai continué à pratiquer le théâtre, la télé, le dessin, parallèlement.
Et vous continuez d'ailleurs, peut-être un petit
plus
peu
le théâtre,
moins.
Enfin, y a que le théâtre. Mais alors c'est drôle parce que...
La télé, vous aimez les plateaux télé, les plateaux radio depuis cette époque-là,
depuis
non
toujours, j'adore. Et puis j'ai un moment, j'ai quitté la télé aussi pour faire plutôt de la radio. Et j'ai découvert la merveilleusité de la radio que je préfère mille fois à la télé parce qu'elle est tellement plus dense. Elle est plus pauvre
dans les
moyens, mais plus libre et plus riche. Et donc j'ai fait ça passionnément pendant 13 ans. Avec une équipe magique à la télé où chaque jeudi soir nous enregistrions 6 émissions devant du public et on était une bande de 7 et je crois que je n'ai jamais autant ri de ma vie que pendant cette période-là.
Mais alors, est-ce qu'il y avait là ce fameux esprit belge qui fascine les Français aujourd'hui encore avec Poulvord et beaucoup d'autres, mais déjà autant de Magritte, etc. C'est quoi ce... Il y a un mot, je crois, Svanze.
La Svanze. Oui, la Svanze, c'est l'esprit particulièrement bruxellois.
Ah oui.
Parce qu'il y a des régions aussi. Vous savez, les accents sont pas les mêmes du nord au sud du pays.
Vous êtes.
Moi, je suis bruxellois.
Bruxellois.
D'une partie de la famille d'origine flamande, l'autre d'origine wallonne et truc. Je suis ethniquement pur, si vous voulez. C'est compliqué à expliquer cet esprit un petit peu décalé des Belges quand on est né dedans et quand on le pratique soi-même. Mais je crois que ce qui en fait la particularité, c'est que l'angle d'attaque sur le sujet vient d'on ne sait jamais où. C'est ce que me disent mes camarades français en disant si on lance un sujet et moi j'arrive avec un truc auquel personne n'aurait pensé. Ouais. Et on sait bien qu'alors en 3 dimensions, les angles sont multiples. C'est comme les météorites qui tombent sur la Terre, elles peuvent venir de partout. Vous savez, j'ai déjà cité, pardon, à ceux qui l'ont entendu et si je me répète, mais pour moi, une anecdote magnifique qui illustre la Zouanze bruxelloise, c'est un Français qui fait ses courses au marché aux poissons. il y a des décennies de ça, et il se trouve devant la poissonnière qui écorche les anguilles à vif. Vous savez que c'est malheureux, on doit leur arracher la peau vivante, sinon il n'y a pas moyen de le faire. Et donc, il lui dit à la dame, il lui dit, mais ah, il dit, ça doit leur faire horriblement mal. Et elle lui répond, non, vous savez, elles ont l'habitude.
Voilà.
Et donc, pour moi, ça dit beaucoup de choses.
Il y a d'ailleurs un dessin, je crois, dans votre dernier album, sur un type qui invite des gens à dîner au restaurant. Et il leur fait la description, plat après plat, de toutes les souffrances qu'ont endurées les animaux ou les oies et autres qu'ils vont déguster.
Avec moult détails. Et les types sont complètement dégoûtés. Et puis il leur propose, il dit, prenez ce que vous voulez, c'est moi qui invite. Et les autres demandent juste un verre d'eau.
Mais alors ça fait partie de l'itinéraire normal du Belge, du Bruxellois, malgré son génie particulier, que de monter à Paris pour essayer de se faire connaître.
Alors moi, c'était pas du tout dans mes projets.
Ah oui.
Honnêtement, j'étais un artiste heureux, comblé. Je faisais des dessins qui étaient publiés à l'étranger et notamment en France. Et puis je faisais des expositions qui avaient du succès. Et puis je faisais de la radio où je m'amusais comme un fou. Et je me dis, qu'est-ce que je vais aller m'emmerder à essayer de monter à Paris pour faire pourquoi Et puis un jour, il y a une proposition qui est arrivée, qui venait de Laurent Ruquier, qui était à France Inter à l'époque. Et nous avions été tous les deux dans un journal qui s'appelait Info Matin, qui a vécu 2 ans, et dans lequel je faisais la petite bande de la dernière page, un strip en 3 cases, et lui faisait une petite chronique écrite. Et donc, il a découvert le chat à cette occasion-là, et quand le journal a sombré, c'était en janvier 96, à la mort de Mitterrand, il m'a appelé en me disant, voilà, on était dans le même journal, moi j'ai repris une émission à France Inter qui s'appelle Les Petits Déj, est-ce que ça vous dirait de participer ? Oh, France Inter m'appelle, moi je dis oui, bien sûr, j'arrive. On convient d'un jour, on fait l'émission, ça se passe super bien. Il me demande de revenir une deuxième fois, ça se repasse super bien. Et puis, je suis devenu permanent.
Vous êtes devenu donc franco-belge, mais toujours bruxellois néanmoins aujourd'hui, par exemple.
Ah oui, je vis à Bruxelles. Et c'est ce qui a changé depuis la génération précédente ou celle d'avant, avec les Raymond Devos, les Annie Cordy, les gens qui sont venus faire carrière.
Jacques Brel, bien sûr.
Oui, Jacques Brel, qui sont venus faire carrière à Paris et qui se sont mis à vivre et à habiter
en France.
À Paris.
Ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui.
Non, maintenant pas. Avec le train rapide, Poulvorde, Morane à l'époque, on habite là-bas et on vient faire nos trucs, une prestation, etc. Et puis on rentre dormir chez nous le soir. Très pratique.
Bobby Lapointe, il n'est pas belge, mais il a un peu la svanze, non ?
Enfin, non, c'est autre chose. Il aurait pu, on aurait dû le faire citoyen d'honneur.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux oui. Leur montre en comment sans ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. S'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. J'en connais un qui s'est marié à une grande république. Il dit quand elle lui fait la nique, ah qu'est-ce que tu me fais marrer. la maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille.
Voilà, là, ce ne sont pas les chats, ce sont les poissons chantés par Bobby Lapointe, que vous aimez beaucoup.
Que j'aime et que j'ai l'impression de connaître absolument par cœur. Quand j'entends une de ses chansons, je la chante avec lui. Et j'ai le même phénomène avec Brassens. Ils étaient d'ailleurs assez potes. Brassens l'admirait beaucoup. C'est juste magnifique. C'est juste drôlissime. Je ne l'ai jamais vu sur scène. Un de mes amis l'avait vu sur scène et disait que c'était magique.
Parmi les chanteurs de la chanson française, vous avez comme ça quelques amours en particulier, justement.
Oui, alors Brassens, je prends tout, du début à la fin, c'est juste parfait. J'ai beaucoup d'affection pour Souchon, France Gall est sans doute la chanteuse qui me touche le plus. Le vibrato de sa voix, ce qu'elle a chanté pour Michel Berger, ça me bouleverse. C'est une femme qui me transperce littéralement et qui me donne la pêche en même temps et puis qui me rend totalement nostalgique. Alors j'ai ça aussi, mais en comprenant moins avec Billie Holiday, dans une autre veine. Mais je trouve qu'il y a quelque chose chez ces deux femmes qui me touche infiniment.
Quand vous avez créé Le Chat, donc c'était en 1983 dans Le Soir, c'est ça, hein, Philippe Geluck. Vous connaissiez le livre Les Variations sur le chat de Ciné?
Ah mais non seulement je le connaissais, mais c'était... Alors, c'était pas
que
ma Bible.
Que j'aime beaucoup, c'est juste des jeux de mots sur le
bien
mot,
sûr.
Sur le chat. Hein,
mais qu'il a inventé avec Léonore Fini.
Ah oui.
Ils étaient à une soirée, ils se sont mis à déconner là-dessus. Et après cette soirée, il y a Bob Ciné qui a commencé à lui envoyer tous les jours une carte postale avec un chat tout brillant, chapeau, chat rabia, etc. Et j'avais punaisé au mur de ma chambre d'enfant une affiche de Ciné, dessiné par Ciné, pour un film que mon père distribuait en ciné-club et qui était La soupe au canard des Marx Brothers.
Ah oui.
Et donc mon père, dans les années 60, avait demandé à Ciné...
Ah donc c'était un film américain, votre père
hein? Oui, mais c'était pour le ciné-club. Hein. Ouais, mais c'était les Marx. Il y avait tout de même Marx dedans.
Oui,
et donc, oui, c'est l'exception qui confirme la règle. Non, après, il s'est un petit peu ouvert à d'autres pays. Et donc, il avait demandé à Ciné de venir à Bruxelles. Ils sont super bien entendus et Ciné lui a fait une affiche merveilleuse. Après, ils se sont complètement perdus de vue. Ils n'ont plus du tout été en contact. Et quand Ciné m'a écrit une lettre à la sortie de mon premier bouquin, il ne savait pas du tout que j'étais le fils du type qu'il avait vu 25 ans plus tôt. Mais j'avais cette affiche au-dessus de mon lit et je pense que ça m'a aussi donné envie de faire ce métier. Évidemment, toutes ces variations sur les chats, je les connais, je les admire. Et quand vous dites que ce ne sont que des jeux de mots, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est de la poésie. Ouais. Et chaque fois, il y a une idée derrière la transcription graphique qu'il fait du jeu de mots.
Ouais.
Et depuis que je connais ce livre, c'est-à-dire depuis toujours, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais utiliser la sonorité chat dans un de mes gags. J'ai dérogé à cette règle une seule fois, c'est pour le titre d'un album qui s'appelait « Et vous, chat va ?» Et le chat répond « Super, merci ». Mais c'est la seule fois, je vous le promets. Et c'est drôle parce que tout le monde, on ne peut pas dire me soupçonne, mais tout le monde pense que je me replais là-dedans, et pas du tout, au contraire.
Quand vous parlez d'ailleurs de vos influences de dessinateurs d'humour, vous citez plus souvent Ciné, Sampé, Les gens de Charlie ou d'Arakiri que la fameuse école belge, pour le coup, de bande dessinée.
Oui, parce que je me sens proche.
C'est plutôt ça, votre famille spirituelle.
Oui, c'est mon terreau, c'est ma famille spirituelle. Et j'en ai rencontré beaucoup. Certains sont devenus des amis et certains que je pleure encore aujourd'hui.
Reiser et d'autres.
Oui, alors Reiser, malheureusement, je ne l'ai pas rencontré, mais Volinsky était un pote, Tinius, etc. Mais bon, les plus anciens, je cite aussi Chaval, qui est hyper
le grand Chaval.
Énorme Chaval. Steinberg,
l'américain,
Chase Adams. Et c'est eux. Ma famille, c'est les cartoonistes, c'est les dessinateurs humoristes. La BD, j'en utilise les codes, mais je ne la pratique pas.
Voilà.
Pour moi, c'est pas de la BD que je fais. Et d'ailleurs, dans les festivals de BD, j'ai pas vraiment ma place.
Le chat a vu le jour donc en 1983. À partir de quel moment ou de quel album ou de combien de temps vous avez compris que ça allait devenir un personnage récurrent qui allait se développer pendant des années et des années, que ça allait être au fond votre héros?
C'est pas après plusieurs albums, c'est après quelques dessins dans le journal.
Ah oui, très vite.
Ouais, voilà. Très vite. Première réaction a été plutôt un peu fraîche. La première lettre que j'ai reçue est anonyme et dit « Monsieur, votre ours ne me fait pas rire ».
Oui,
bon, après, j'ai essayé de m'améliorer, de faire des dessins plus précis. Et même au journal, tout le monde n'adorait pas. Et puis au bout de 3 mois, il est devenu la coqueluche du soir. Et dans les 2 ans qui ont suivi, les gens m'ont très vite demandé « Mais quand est-ce que vous allez faire un recueil de ces dessins ?» Et donc j'ai très vite pensé. Et puis dès le départ, en me disant « Tiens, quand je fais un dessin, il ne faut pas qu'il illustre simplement l'article qui l'accompagne, parce que il faut qu'il soit compréhensible hors l'article.
Oui.
Que le dessin tout seul soit fort.
Oui.
Et dès le départ, je me suis mis à faire ça. Donc j'ai accumulé des dessins. On m'a dit, est-ce que vous allez faire un album? J'ai dit oui, bien sûr. Et puis j'ai proposé aux éditions Casterman de publier le premier album.
Le premier, oui.
Et ils m'ont répondu non. Non merci, on pense que ça marchera jamais. On aime bien le chat, mais ça peut pas faire l'objet d'un album. Je dis bon, ok. Je suis allé voir un deuxième éditeur avec qui je faisais un petit truc pour Lollipop, et je leur ai dit, et ils ont dit non, écoute, on va se concentrer sur ce qu'on fait pour le moment et on va pas. Et je suis allé voir les éditions du journal Le Soir, les éditions Rossel, en leur proposant le même projet, et ils m'ont dit non merci, c'est pas notre culture.
Ah oui, c'était mal parti. Hein.
C'était mal parti. Et quelques mois plus tard, je me suis dit mais on me le demande tellement, je commence à voir cet album dans ma tête, je vais le faire à compte d'auteur. Rencontrant le directeur de chez Casterman, je lui ai dit, voilà, j'ai pris une décision, je vais faire mon album, mais à compte d'auteur. Il m'a rappelé le lendemain en me disant, écoute, non, c'est une mauvaise idée, les éditeurs sont là pour éditer, les auteurs pour créer, donc on va le faire quand même. Et ils l'ont fait, et on a compris en 2 jours et demi que ça allait être un succès fracassant, parce voilà. Qu'il était épuisé tout de suite.
Vous aviez trouvé la recette, c'était...
Oui, mais vous savez, si c'est une recette et que vous l'appliquez
oui.
À chaque fois pour ouais. Tous les trucs, après ça les gens pas. Vont dire on ouais. Aimerait avoir autre chose oui, à déguster. Et donc la magie dans cette histoire, et là c'est le 23e album qui vient de sortir,
ouais.
Les lecteurs me disent mais tu nous surprends de nouveau, ça se renouvelle. Comment est-ce que tu arrives encore à trouver des nouvelles choses après 37 ans de pratique du personnage? Je ne sais pas, c'est la passion.
Cha 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 comme on t'aime, mais malgré, c'est Mimi, c'est Mimi, c'est Milia, le Pacha, cha cha cha, a des liens, le cafard, des pépés, des pétroles, il était saturé, car son rêve, c'était de voir pousser le garçon,
plein d'argent, j'en perçant, si puissant,
devant son bâtard,
son palais
en toute saison,
chaque fois qu'il creux, qu'il creusait des trous, pour trous, pour trous, la hidou,
pour trouver un fifi, filet d'eau.
Du pépé, du pétrole jaillissait aussitôt. Et les sous-sous,
les sorciers,
les sorciers voulaient tous des mimi, sillonner. Et le papa, le pacha, cha-cha-cha, languissait.
Car son rêve, c'était noir pousser le garçon.
Car personne, si puissant,
devant son matin, son palais en toute saison.
On signala en un de pas une rivière, le dos clair, le pacha, il courut sur le champ, mais le papa,
fort déçu, n'ayant vu plus une rivière de diamants.
D'un coup de thé, il jouera aux zanzans, aux zanzis, aux anglais. C'est pépé, c'est mimi, son papa, c'est sous-sous, qu'il pépé, qu'il perdit sur le coup.
Car son rêve, c'était noir, pousser le gazon.
C'était noir, pousser le gazon.
Devant son papa,
son palais en toute saison. Alors tout con, tout con le fait, il s'installe là chez nous, car chez nous, pour ce qui est du caca, du gazon, on serait plus trop caca, trop gâté. C'est un chat, c'est un chat.
Voilà, c'était les frères Jacques en 1958 dans cette chanson Chat, chat persan, avec plein de références à l'époque parce que c'est l'époque du chat d'Iran et puis c'est l'époque du cha-cha-cha aussi. Enfin, c'est, voilà, tout ça qui se mélange, même si vous nous l'avez expliqué, Philippe Gueluc, vous n'avez pas du tout fait une spécialité de tout ce qui concerne les chats, parce que votre chat, c'est au fond, c'est à la fois un philosophe et un imbécile, plus qu'un chat, c'est ce mélange des deux.
Oui, c'est un personnage. Un personnage avec ce que ça a de flou. Mais c'est drôle que vous parliez du chat d'Iran parce que nous avions reçu Faradiba chez Drucker tout un dimanche. Oui. Elle avait sorti un bouquin et je lui avais offert un dessin en fin d'émission. Et je l'ai croisé dans un vernissage au Centre Pompidou il y a pas longtemps. Elle m'a reparlé de ce dessin. J'étais assez fier d'ailleurs.
Je suis là. Elle vous interpelle comme ça.
Oui. Et je parlais avec un grand artiste, Joseph Kosuth, qui était le grand pape de art et langage. Un Américain mythique dans le monde de l'art, et on bavardait tous les deux, et il y a une dame qui vient me taper sur l'épaule et qui dit, est-ce que je pourrais... Je dis, excusez-moi, je suis en train de parler avec Monsieur Kosuth, et puis elle me retape sur l'épaule, elle me dit, oui, mais c'est l'impératrice voudrait vous dire un mot. Alors j'ai dit à Kosuth, je dis, excuse-moi deux secondes, mais il y a une impératrice qui veut me parler. Et je me retourne, et elle était là, elle me dit, oh, votre dessin, je le vois tous les jours et je le montre à tout le monde. Et le dessin que je lui avais offert disait ceci, on voyait le chat avec des valises, et il disait, dans certains pays, quand le chat est parti, les souris ne dansent pas, car la musique est interdite.
C'est beau.
Et elle m'a dit, oh là là, celui-là, il impressionne toujours. Enfin voilà. Donc je connais une impératrice.
Vous avez des amis de grande classe, il paraît que Soulage, vous fréquentez aussi?
Oui, Soulage est un. Soulage, je peux dire, c'est un ami. Hein, Soulage, ah oui, ah oui, quand on est, j'ai eu la chance d'être invité chez eux, et en sortant de son atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit, au fond, on devrait se dire, tu, on fait le même métier. Je lui dis, écoute, Pierrot, oui, avec plaisir. Et j'ai l'honneur pour l'instant d'être accroché dans le musée Soulage jusqu'au 8 mai prochain. Pour une exposition qui s'appelle « Le chat visite le musée Soulages ». Ouais. Et le directeur conservateur en chef m'a demandé de venir accrocher des travaux à moi. Il y en a 25, des tableaux et des dessins, dans l'espace Soulages du musée. Ah oui. Et je suis le premier artiste vivant à avoir cet honneur. Donc je me dis, avec ça et l'impératrice, je peux me la péter.
Le chat est parmi nous, c'est votre 23e album, Philippe Gueluc, un album en partie masqué. Hein. Il est vraiment sorti
Certains
après
dessins
la catastrophe.
Ont été faits pendant le confinement. J'ai pas voulu trop appuyer sur le truc.
On
parce
en
que
deux, dis, comme ça, au début. Voilà.
Les gens vont avoir envie de lire d'autres choses que des histoires de confinement et de confinés. Voilà, chez moi c'est en confini, donc ça c'est bien.
Il y a plein d'histoires, de jeux, de réflexions, de choses très drôles, on va y revenir. Mais au fond, est-ce que dans un album de Gueluc et de son chat, il y a à chaque fois un fil conducteur?
Non.
Non, hein?
Non, alors, sauf dans un livre que j'ai publié en 2012 ou 2013 qui s'appelait « La Bible selon le chat » et dont le co-auteur était Dieu, mentionné sur la couverture. Et donc là, effectivement, c'était un récit d'un seul tenant. Sinon... non, j'essaye juste de préparer un album qui soit varié, qui soit surprenant,
construit,
qui aborde...
musical.
Voilà, exactement. En revanche, on me dit souvent, après sa publication, tiens, il est plus ceci ou plus cela.
Voilà.
Ici,
les derniers sont assez...
Un peu plus trash.
Voilà, je cherchais le mot.
Le mot anglais le dit si bien, trash, parce qu'on peut pas dire il est poubelle. Non, il est un peu plus violent, ils sont un peu plus violents. Ça, c'est depuis que je dessine dans Ciné Hebdo et puis Ciné Mensuel.
Ouais.
Où Bob Ciné m'a demandé de me lâcher, de pas faire forcément dessiner le chat, mais de faire des choses un peu plus violentes.
Voilà.
Et à l'époque, ses compères du journal lui avaient dit, non mais attends Gueluc, c'est un doux, c'est un mou, il est chez Drucker, c'est pas ça qu'il nous faut dans Ciné Hebdo. Et il leur a dit, laissez, on va voir. Je lui ai demandé de se lâcher, on va voir ce qu'il va produire. Et j'ai produit des dessins que les autres ont parfois avalé de travers en disant, gloups, il va plus loin que nous. Donc si on me lâche, moi j'y vais.
En tout cas, c'est un recueil de réflexions extraordinaires. Par exemple, alors dans le côté doux, j'en cite une comme ça. La feuille qui tombe de l'arbre et qui y remonte n'est probablement pas une feuille, mais un papillon. C'est joli, ça, hein ?
Oui, je suis ému.
Dans le genre trash, si tu rentres bredouille de la chasse, tu peux toujours tuer ton chien. Si tu le rates, il te reste ta famille. C'est quand même assez violent.
On peut dire que ce sont voilà
les deux pôles de Gueluc.
Oui, voilà. Et je trouve que l'un va bien avec l'autre. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est être inattendu. Quand on m'attend violent, c'est d'être poétique. Et quand on m'attend doucereux, c'est bam, d'arriver avec un truc. Il y en a un autre que j'aime bien dans le truc, c'est le chat qui bavarde avec un autre. Et l'autre lui dit, moi, j'aime pas les endives. Et le chat lui répond, moi, je n'aime pas le nazisme. Et on s'est jamais posé la question de savoir, est-ce qu'on peut aimer le nazisme et les endives? Ou si on aime les endives, est-ce qu'on n'aime pas le nazisme? Enfin voilà, ça pourrait être un sujet philosophique.
Et il y en a beaucoup qui pourraient paraître même dans un recueil d'aphorismes hors album presque. Hein,
mais vous annoncez une publication de l'an prochain qui s'appellera Les mots du chat. Mon éditeur m'a demandé de faire un livre avec uniquement les phrases du chat et puis d'autres dessins. C'est un plaisir à faire aussi.
Une autre chose qui me frappait, c'est un peu dire un peu l'école Harakiri et même surréaliste au-delà, c'est que vous aimez bien aussi les détournements d'affiches, notamment de vieux journaux, du petit Parisien ou autre, sur lesquels vous ajoutez des légendes de votre cru.
Les gravures anciennes, et vous avez cité mes grands influenceurs qui sont les collages de Jacques Prévert et puis tous les collages surréalistes. Et puis dans Harakiri, il y avait cette séquence qui s'appelait l'art vulgaire, qui était faite par Choron et Gébé, et dans laquelle il mettait sur des tableaux d'art pompier, grandiloquent forcément, avec des horreurs. Et ça m'explose.
Exactement ça.
Je poursuis cette... Et puis il y avait aussi Monty Python avec les collages de Terry Gilliam, le réalisateur, faisait des génériques et des jingles entre les séquences qui étaient à hurler de rire. C'est une tradition que je veux perpétuer et je pense à eux chaque fois que je trouve une belle connerie à dire.
Un petit peu de jazz, tiens, pour changer de registre. Louis Armstrong et Danny Kaye dans The Five Pennies, ça fait partie de vos morceaux chéris.
Je sais pas comment je suis tombé sur ce 30 cm un jour, The Five Pennies. C'est la bande originale d'un film que je n'ai jamais vu. Et j'ai écouté ce 33 tours jusqu'à l'usure. Maintenant, je l'ai retrouvé en CD. C'est hilarant, touchant, merveilleusement musical. Je vous le recommande.
When the saints
go marching in,
go marching in.
When the saints go marching in,
ooh, yeah.
I wanna be,
ooh, yeah,
in that number.
Ooh,
when the saints go marching in.
When the saints
go marching in,
go marching in. Who's gonna play on the day when the saints go marching in?
Well, the way I'll explain that now, the mostest and the greatest,
from the oldest to the latest,
gonna play in the band in the great grandstand when the saints go marching in. Louis, what about Brahms?
He laid no bomb.
And Chopin?
Solid man. And Bob, that great old master.
Yeah, that great old master was a gasser.
Yes, but Mozart the most with all he had.
With the symphonies and operas and all that jazz.
Do you dig Rachmaninoff?
On and off.
Rimsky?
Of course. Ravel and Gustav Mahler.
Yeah, but don't forget Fats Waller.
I wouldn't do that. List adds a twist that you can't resist.
Yeah, yeah, put Liszt on that list.
When the saints go marching in.
Here we go,
man. When the saints,
oh, when the
saints go marching in.
Yeah, look at this cat digging me.
When the saints go marching in.
Face and all.
I want to be in that number. Saint-Saëns,
Saint-Saëns,
and George Bizet,
Très Bizet,
Guitton, Souffé, Massenet,
and Offenbach.
Do you dig him, John?
Very often.
Well, Frère Jacques, I dig you, Jacques. I dig you, Jacques. I dig you, Jacques.
Massenet and Bizet,
Offenbach. How about Wagner?
Devout.
and hide.
Who?
Joseph Haydn.
Who?
Haydn.
We'll let him come out.
Paganini.
Rossini.
Toscanini.
Puccini.
Cacciatorian.
Gozontai.
Thank you. And what's his name?
Mr. Beatles.
And you know that
extraordinaire, hein, The Five Penny Saints, donc variation voilà. Sur la célèbre chanson par Louis Armstrong et Danny Kaye.
Voilà,
en
Danny
1959.
Kaye, tous les deux chantent. Armstrong, évidemment, on ne doit pas le présenter, mais Danny Kaye joue de la trompette admirablement et il y a des duos. C'est une BO de film qui est éblouissante, drôle, prenante, émouvante, musicale, magnifique.
Philippe Guéluc, alors sans transition, comme oui. On dit dans certaines émissions, passons au classique.
Oui.
Non, vous avez une vraie passion, j'ai vu ça quand on a préparé l'émission, pas seulement pour Mozart, mais pour le grand répertoire, pour la musique baroque, pour Bach, oui. Pour Schubert, pour le Stabat Mater de Vivaldi qu'on va écouter tout de suite. Ça occupe beaucoup de temps dans votre vie. On
oui.
Sait qu'en général, les dessinateurs dessinent en écoutant de la musique ou la radio, mais vous?
Alors moi, j'adore la radio. Mais je peux pas écouter la radio. Quand je dois chercher des gags et construire des phrases dans ma tête, je suis comme un écrivain,
oui.
Je peux pas écouter
oui.
Des gens qui parlent.
Oui.
Je peux pas écouter de la chanson française.
Évidemment.
Donc, j'écoute du jazz et de la musique classique, et de la musique classique m'emporte totalement. Enfin, tous les dimanches, c'est pas religieux. J'écoute des cantates de Bach. Je suis véritablement habité par cette musique, transporté par cette musique, sans aucun snobisme, parce que ça me parle aux tripes. Et le premier mouvement du quintet à cordes de Schubert, il en a fait qu'un, il a fait des quatuors, des septuors, mais il y a ce quintet qui est...
À deux violoncelles.
Absolument, voilà, qui me prend aux tripes.
Et
bon, sans doute, l'éducation musicale de mes parents, dans mon enfance, m'a permis ensuite... à l'adolescence, de découvrir moi-même. Et les choses que j'aime le plus, c'est celles que j'ai découvertes seul et que eux ne connaissaient pas vraiment. Et puis, je me suis fait ma propre culture.
Et le Stabat de Vivaldi?
Alors ça, c'est un ami comédien qui me l'a fait découvrir lorsque le disque est sorti dans la version chantée par James Bowman et dirigée par Christopher Hogwood avec The Academy of Ancient Music à l'Oiseau Lyre. Et je ne connais à peu près... Enfin non, j'ai écouté d'autres versions, mais c'est vers celle-là que je reviens à chaque fois. Et là, c'est si vous voulez avoir la paix, je vous écoutez ça et c'est parti.
Ça vous fait rêver. Hein.
Ah bah oui, c'est
vous imaginez à Venise dans les...
Ah oui, je me dis dans les années 1700 et quelques, il y a des gens qui ont entendu ça dans une église à Venise, jouer pour la première fois. Oh, ouais. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là. Mais en même temps, je suis content d'être ici, surtout.
Vous êtes ici d'ailleurs, Philippe Gueluc, je le rappelle, pour la sortie de Le Chat est parmi nous. C'est vraiment un bonheur parce qu'à chaque page, on trouve une idée, on rit, on réfléchit aussi. Hein. Il y a des... J'ai bien aimé celle-ci par exemple, ce sont toujours les répliques du chat naturellement. Hein. Les policiers vont surtout voir des films policiers tandis que les militaires vont voir des films de guerre. Les gens actifs vont voir des films d'action et les historiens recherchent les fresques historiques. Mais alors pourquoi les films sans histoire n'attirent-ils pas plus les gens sans histoire ? C'est très juste, hein.
Ouais, hein. Comme quoi, oui,
c'est la
drôle.
Philosophie, là.
Oui, mais c'est drôle. C'est, alors ça, c'est pas un dessin, puisqu'on peut le dire en radio. Et c'est magique, mais c'est comme dans l'écriture, dans la littérature. Quand on se met à écrire quelque chose, on part sur autre chose. Ouais. Et puis on est entraîné vers quelque chose qu'on n'avait pas prévu.
C'est vrai.
Et c'est magique.
Alors dans un genre plus bref et très drôle, si on y réfléchit un peu, le Titanic a été plus longtemps un sous-marin qu'un paquebot.
Oui. Je confirme. C'est...
Voilà, tout ça, c'est dans le dernier album de Philippe Gueluc, qui est aujourd'hui une espèce de monument de la vie artistique franco-belge et internationale. Je le dis, un monument un peu, pas en péril, mais entravé, parce que vous deviez avoir une grande exposition à Paris, je crois, sur les Champs-Élysées.
Oui, voilà, tout chats. Simplement, des chats de bronze, de
Et puis malheureusement, les circonstances, comme on dit, sont arrivées par là.
Mais je pense qu'il y a un complot contre moi. Un complot mondial, parce que l'exposition a été reportée. L'exposition au musée Soulages a dû fermer ses portes 4 jours après l'inauguration.
Voilà. Ça ne concerne que vous, en fait. Oui.
Je pense que je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, mais il y a quelqu'un qui m'en veut quelque part. Bon, mais j'espère que tout va redevenir normal. Très bien.
Et puis il y a ce musée, alors.
Le musée, ça, c'est pour Bruxelles en 2024.
Ah, mais c'est important de le dire.
Oui, mais enfin, on aura le temps de réfléchir, de le préparer encore. Le permis de construire devrait être attribué dans les jours maintenant qui viennent, et les travaux commenceront l'année prochaine, 2021. Et puis, voilà, c'est un long processus, parce qu'il faut construire un bâtiment moderne au sein d'un ensemble néoclassique. Ouais. Donc, c'est un geste un petit peu audacieux. C'est pas moi qui fais le bâtiment, mais après, je l'occuperai, et j'essaierai de faire un beau musée, ouvert à tous, populaire, joyeux, divertissant, et dans lequel j'accueillerai des dessinateurs humoristes
très bien,
que j'admire. Hein. Bien sûr, ça ne sera pas que pour moi, que pour ma pomme.
Et puis Philippe Gueluc, vous êtes aussi très, très attaché à votre vie de famille. Par exemple, vous êtes marié avec la même femme depuis le début, ce qui est quand même assez rare de nos jours.
Elle s'est habituée à moi. On a commencé à vivre ensemble en 1976.
Oui.
Donc ça fait 44 ans.
Oh, ouais, hein,
c'est ça, ça compte.
Aujourd'hui, c'est quasiment invraisemblable.
Oui, mais pas si la magie est là. Je retombe amoureux d'elle à chaque instant.
C'est beau.
Elle m'a fait 2 enfants.
Et vous avez même des petits-enfants.
Et qui eux m'ont fait 4 petits-enfants. Donc c'est très classique, l'image de la famille d'un peu comme avant, mais ça a du bon.
Et justement, votre fils Antoine, lui, est musicien.
Oui. Il est compositeur, chanteur, interprète, musicien. Il fait des. Là, il travaille beaucoup sur des génériques et des choses comme ça.
Il n'a pas gardé le nom de Gueluc.
Il s'est appelé Antoine Chance.
Voilà.
Mais Gueluc, ça veut dire chance en flamand.
Ah, bien
Donc,
sûr.
Donc il y avait une petite
Gluck,
astuce.
Oui, voilà. Bien sûr.
Et il a sorti 3 albums magnifiques. Et je lui ai demandé aussi de composer. Alors moi, j'en parle évidemment à la fois comme un papa, mais aussi comme un mélomane. Et je trouve qu'il y a des qualités. Il a par exemple fait pendant une semaine la première partie de Souchon-Voulzy au Palais des Sports.
Oui, c'est pas mal.
C'était pas mal. Donc, il a fait les scènes des Francofolies. Il a été artiste de l'année en Belgique. Et puis je lui ai demandé, quand j'ai créé la série télévisée La Minute du Chat, je lui ai demandé de composer le générique. Et je voulais pas évidemment imposer mon fils à la production, donc j'ai fait écouter plusieurs musiques. Et c'est lui qu'on a choisi. Donc j'étais doublement rassuré. Et cette musique est très belle. Et il est allé en Macédoine, dans le village de Kotchani, pour enregistrer sa musique avec le Kotchani Orchestar.
Voilà, ça tombe bien.
Fanfare massée de
Justement, je. Voilà, voilà.
Mais enfin, ne me dites pas que vous avez un morceau
j'avais
du Kotchani.
J'avais prévu de finir avec.
Mais c'est incroyable.
Non, semble que vous aimez cette
ah
couleur.
Oui, les fanfares tziganes, macédoniennes, etc. Balkany, ben voilà, on revient au début de l'émission. C'est aussi un truc qui me bouleverse, qui me transperce. Dans les films de Kusturica, les musiques sont magnifiques. Et je voulais renouer avec cette tradition-là. Il est allé là-bas, ils se sont super bien entendus. Ils ont enregistré des choses magnifiques. Et ensuite, ils sont lors d'une tournée, repassé à Bruxelles et on a refait une session à Bruxelles. Et donc, la musique de la Minute du Chat, c'est Antoine Chance avec Cochani Orchestra.
Et c'est donc avec cet orchestre et son titre L'Orient est rouge qu'on va se quitter, Philippe Gueluc. C'est vraiment un bonheur d'avoir été avec vous ce matin pour ce numéro 23. Le 24 est en route. Non,
on va un tout petit peu, parce que comme celui-là n'était pas prévu cette année, il va y avoir autre chose l'année prochaine, une exposition de sculpture, et puis il sera pour l'année suivante. Donc, mais je ne vous quitte pas. Comme disait Mitterrand, je serai toujours avec vous.
Voilà, et vous reviendrez donc. Merci, à bientôt.
Merci à vous.
Les belles fanfares de l'orchestre Cochani dans L'Orient est rouge. C'était un choix de mon invité ce matin, Philippe Geluck, qui vient de publier Le chat est parmi nous, 23e album de cette célèbre série, paru comme les précédents, chez Casterman. C'est le nom de ce titre d'Eddie Warner, paru dans un 45 tours Odéon en 1959. Encore un de ces morceaux que vous pouvez retrouver dans le triple CD chez Frémo et Associés, intitulé Le chat dans tous ses états.
Étonnez-moi Benoît. Benoît Dutertre, France Musique.
Et pour terminer cette émission sur le même sujet, je vous propose quelques extraits d'une ravissante opérette d'Offenbach intitulée « La chatte métamorphosée en femme », une œuvre créée en 1858 au Théâtre des Bouffes Parisiens sur un livret du grand Eugène Scribe et qui a connu d'ailleurs un assez grand succès. C'est dommage qu'elle soit autant oubliée. Alors dans cette œuvre, il est question de transsubstantation puisque le jeune héros qui adore sa petite chatte la voit se transformer en femme extraordinaire. Et cette femme elle-même nous raconte comment, avant d'avoir été une chatte, elle était une simple petite fleur et qu'à l'époque, elle invoquait Brahma pour changer sa condition. C'est le sujet de l'air qu'on va entendre tout de suite interpréter et c'est un plaisir de la retrouver également par Maddy Mesplé.
Change-moi vraiment, mon bon Brahma, par toi j'espère.
La délicieuse Maddy Mesplé dans La chatte métamorphosée en femme d'Offenbach, un enregistrement de l'Orchestre lyrique de Radio France de 1975 dirigé par Catherine Comé. Et cet air qui ressemble beaucoup à un air d'opéra comique, c'est d'ailleurs le sous-titre opéra comique qui figure sous la partition, même si cette œuvre a été créée donc au théâtre d'opérette des Bouffes parisiens, au temps des premiers grands succès de Jacques Offenbach et notamment d'Orphée aux Enfers. Alors donc, cette chatte qui se métamorphose en femme, en réalité, c'est un coup monté par la cousine de Guido, le héros de l'œuvre, sa cousine qui trouve qu'il porte un amour excessif à sa petite chatte et donc qui veut le faire déchanter. Donc il y a toute une intrigue qui est montée pour faire croire que l'animal s'est transformé en cette ravissante jeune femme qu'on vient d'entendre et qu'on va retrouver là au moment peut-être le plus important, où elle se met à chanter miaou, miaou, justement, puisque c'est le sujet du jour. Et on entendra également dans ce petit trio la voix de son partenaire Albert Voli.
Je me souviens d'un petit air radieux. Elle se souvient, je me souviens.
Nous t'écoutons très bien.
Écoutez bien, mon petit.
Les accents de ton avis,
Ah, je le trouve vraiment charmant, cet air italien, extrait de La chatte métamorphosée en femme de Jacques Offenbach et Eugène Scribe, avec ici donc surtout, bien sûr, la voix de Maddy Mesplé, notre regretté Maddy Mesplé, mais aussi également Albert Voli et Sonia Nigogossian. L'orchestre lyrique de Radio France était placé sous la direction de Catherine Comet, et je crois que c'est une œuvre qui mérite largement qu'on la redécouvre, qu'on la montre, qu'on la fasse entendre à nouveau. Heureusement que nous avons du moins cette archive de la radio de 1975. Et puisque le chat nous a accompagnés toute cette matinée, eh bien je vous propose de nous quitter maintenant avec un chat beauté qui m'est très très cher. C'est celui de Chantal Goya et Jean-Jacques Debout.
Écoutez l'histoire, difficile à croire, de cet homme qui n'avait rien. Un chat de misère qui a su y faire pour lui changer son destin. En chaussant des bottes, en mangeant un ogre, en peu de temps il changea. D'un coup de baguette, son malheureux maître en marquis de Carabas. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. J'étais venu faire un petit tour afin de vous dire bonjour. Vous êtes le chat le plus beau de cette époque. Château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée et votre beau manteau.
Je suis le chat beauté, je ne veux pas vous griffer.
Si vous défendez les enfants,
les pauvres des braves gens,
donnez-moi le bras ou dansez avec moi. Monsieur le chat beauté, pour faire trois petits pas.
À
quelle rencontre, c'est un chat qui compte, qui miaule et qui fait ronron, qui sur la musique, sans sortir ses griffes, danse comme un rat fripon.
Prenez donc ma chère, ma patte légère.
Eh bien bougre d'animal, entrons dans la danse, la fête commence, nous allons ouvrir le bal. Monsieur le chat beauté, vous n'allez pas me griffer. Le plus beau de cet étrange château. Avec vos bottes, votre chapeau, votre épée, votre beau manteau.
Je suis le chat beauté, je ne veux pas.
C'était donc bien sûr Chantal Goya qui referme ces portraits de chats que nous vous avons proposés tout au long de la matinée. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Bernard Laniel, réalisation Christine Amado. Et la semaine prochaine, eh bien, j'aurai le plaisir d'accueillir Hervé Villard. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique, où vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.